Lecture des lettres des pères du désert, une émission proposée par Hélène.
Nous vous proposons une série d'émissions sur les écrits des pères du désert qui, dès le IIIe siècle, s'installèrent comme ermites dans les déserts d'Égypte et de Palestine, et leurs écrits ont une portée spirituelle considérable et sont les piliers de toute la littérature des pères de l'Église qui ont suivi. Il y a, comme ils aiment à le dire, ceux qui parlent de Dieu et ceux qui voient Dieu. Leurs lettres à des moines, le plus souvent, portent le souffle puissant de l'Esprit-Saint et relatent leur expérience personnelle de la prière incessante.
La dernière émission nous permettait d'approfondir avec Saint Jean Climac ce qui tourne autour du ventre et de la gourmandise, du sommeil, de la veille corporelle, de la pusillanimité ou crainte maladive, de la vaine gloire et de la pensée du blasphème. Aujourd'hui, nous aborderons un sujet majeur de l'ascétisme, la chasteté. De la chasteté, de l'incorruptible chasteté et continence, obtenue au prix de travaux et de sueurs par des hommes corruptibles. La règle et la caractéristique d'une parfaite et très pure chasteté est de se tenir à peu près dans les mêmes dispositions vis-à-vis des corps animés ou inanimés, des créatures raisonnables ou sans raison. Que nul de ceux qui se sont exercés avec succès à la chasteté n'estime l'avoir acquise par ses propres forces, car c'est chose impossible que de vaincre sa propre nature. Quand la nature est vaincue, on doit y reconnaître la présence de celui qui est au-dessus de la nature. Car il est hors de conteste que le plus faible cède la place au plus fort. Autre est celui qui tient ce tyran enchaîné par ses combats, autre celui qui le lie par l'humilité, et autre encore celui qui le fait grâce à la manifestation d'une lumière divine. Tant que tu vivras, ne te fie pas à cette boue et ne t'appuie pas sur elle avant d'avoir comparu devant le Christ. Quelques hommes doués de connaissances ont donné cette excellente définition du renoncement. Haine du corps et combat contre le ventre. Certains proclament bienheureux les eunuques par nature parce qu'ils sont délivrés de la tyrannie du corps. Mais moi, je proclame bienheureux ceux qui se sont faits eux-mêmes eunuques chaque jour, c'est-à-dire ceux qui se castrent eux-mêmes par leurs pensées, comme avec un couteau. N'espère pas repousser le démon de la fornication par la discussion et la contradiction. Car ayant pour arme la nature, il trouvera de bonnes raisons. Celui-là court en vain, qui a résolu de combattre contre la chair et de la vaincre par lui-même. Si le Seigneur, en effet, ne détruit pas la demeure de la chair et ne bâtit pas la demeure de l'âme, c'est en vain qu'a veillé et jeûné celui qui veut la détruire. Confie au Seigneur la faiblesse de ta nature, reconnaissant pleinement ta propre impuissance, et tu recevras, sans t'en rendre compte, le don de la chasteté. Il y a, chez les luxurieux, comme me l'a confié, après être revenu à lui, un homme qui en avait fait l'expérience, la sensation d'un amour pour les corps et un esprit impudent et inhumain qui s'installe d'une façon manifeste au plus sensible du cœur et fait ressentir à celui qu'il combat une souffrance physique du cœur telle une fournaise embrasée. Celui qui en est atteint perd la crainte de Dieu, méprise et tient pour rien la pensée du châtiment, dédaigne la prière, et quand il est prêt d'accomplir l'acte lui-même, la vue des cadavres lui fait aussi peu d'effet que celle des pierres inanimées. Il semble avoir perdu la raison et paraît, hors de lui-même, perpétuellement enivré de désir pour les créatures, raisonnables ou dépourvues de raison. Et si les jours où sévit cet esprit n'étaient pas abrégés, aucune âme ne saurait sauver. Revêtues qu'elles sont de cette boue mélangée de sang et d'humeurs impures, comment serait-il autrement? Car toute créature éprouve un désir insatiable de ce qui lui est apparenté. Le sang désire le sang, le ver désire le ver, la boue désire la boue et la chair, elle aussi désire la chair, même si nous usons de divers subterfuges pour tromper cette fourbe, nous qui voulons faire violence à la nature et désirons le royaume. Notre ennemi inhumain, maître de la luxure, nous dit que Dieu est ami des hommes et qu'il pardonne très facilement cette passion parce qu'elle est conforme à la nature. Mais si nous prêtons attention à la fourberie des démons, nous remarquerons qu'une fois le péché commis, ils nous disent que Dieu est un juste et inexorable juge. Il mente d'abord pour nous assister au péché et ensuite pour nous plonger dans le désespoir. Aussi longtemps, en effet, que nous sommes en proie à la tristesse et au désespoir, nous ne pouvons ni désavouer notre faute, ni nous la reprocher, ni en tirer vengeance. Et quand ils se sont dissipés, le tyran nous parle à nouveau de la miséricorde de Dieu. Le Seigneur, qui est incorruptible et incorporel, se réjouit d'autant de la pureté et de l'incorruptibilité de notre corps. Mais certains disent que rien ne donne autant de joie aux démons que la puanteur de la luxure et qu'aucune autre passion ne les réjouit autant que la souillure du corps. La chasteté est union intime et ressemblance avec Dieu autant qu'il est possible à l'homme. Celui qui s'aperçoit que quelques passions commencent à le dominer devra avant tout prendre les armes contre cette seule passion, et cela d'autant plus s'il s'agit d'un ennemi domestique, car tant que cette passion n'est pas détruite, nous ne tirerons aucun profit de la victoire sur les autres. Quand nous aurons tué cet Égyptien, nous verrons sûrement nous aussi Dieu dans le buisson de l'humilité. Ceux qui sont enclins à la sensualité semblent souvent compatissants, miséricordieux et portés à la compunction. Tandis que ceux qui ont du zèle pour la chasteté ne possèdent pas ces dispositions au même degré. On m'a raconté un fait qui dénote une pureté souveraine et extraordinaire. Quelqu'un, me dit-on, à la vue d'un corps d'une singulière beauté, en prit occasion pour glorifier grandement le Créateur. Et ce seul regard excita sa charité envers Dieu et lui fit verser un torrent de larmes. Et c'était étonnant de voir ce qui aurait pu être un gouffre pour l'un, devenir pour l'autre, d'une manière qui dépasse la nature, l'occasion de couronne. Si un tel homme ressent toujours de tels sentiments et se comporte toujours d'une telle manière en de telles circonstances, c'est qu'il est déjà ressuscité, incorruptible, avant la commune résurrection. Là où nous sommes combattus, c'est assurément là que nous faisons une guerre acharnée à l'ennemi. Car si nous ne lui faisons pas la guerre, il se comportera lui aussi comme notre ami.
Le Seigneur, dans sa bonté,
a montré sa grande providence à notre égard, en cela qu'il a donné aux femmes la pudeur pour retenir leur hardiesse comme par un frein. Car si la femme se mettait à courir après l'homme, aucune chair ne serait sauvée. Les pères, doués de discernement, ont différencié les uns des autres l'attaque, la liaison, le consentement, la captivité, le combat et ce qu'on appelle passion de l'âme. Ces hommes bienheureux définissent l'attaque comme la première apparition dans le cœur de la simple pensée ou de l'image d'un objet qui se présente. La liaison est une conversation avec ce qui vient de se manifester, ainsi accompagné ou non de passion. Le consentement est l'acquiescement de l'âme accompagné de la délectation à ce qui lui est proposé. La captivité est un entraînement violent et involontaire du cœur, ou encore une attache permanente à l'objet en question qui détruit l'excellent état de notre âme. Le combat se définit comme une confrontation à égalité de force avec l'adversaire, où l'âme, selon le choix de sa volonté, remporte la victoire ou subit une défaite. Qui a vaincu son corps? Celui qui a brisé son cœur. Qui a brisé son cœur? Celui qui s'est renié lui-même. Car comment ne serait-il pas brisé? Celui qui est mort a sa volonté. Les pensées impures et honteuses du cœur sont généralement inspirées par le séducteur du cœur, le démon de la luxure. Mais le remède en est l'abstinence et le mépris qu'on leur oppose.
Thank you.
Quant à moi, je ne sais par quelles habitudes de vie et quelles conduites je parviendrai à enchaîner cet ami que je chéris, ni comment je le jugerai selon la même procédure que les autres passions, car avant que j'aie pu le lier, il s'est échappé. Avant même de le condamner, je suis réconcilié avec lui. Avant de pouvoir sévir, je m'apitoie sur lui. Comment vaincre celui que la nature me porte à aimer? Comment me libérer de celui auquel je suis lié pour l'éternité? Comment anéantir ce qui doit ressusciter avec moi? Comment rendre incorruptible ce qui a reçu une nature mortelle? Comment opposer de bons arguments à celui qui tient les siens de la nature? Si je l'enchaîne par le jeûne, j'en viens à juger mon prochain et je suis livré au nouveau. Et si, renonçant à juger, je le vins, l'orgueil que j'en conçois dans mon cœur me rend de nouveau son esclave. Car il est à la fois un allié et un ennemi, un aide et un rival, un défenseur et un traître. Si je le ménage, il me fait la guerre. Si je l'épuise, il devient sans force. Quand je laisse tranquille, il se conduit mal. Si au contraire je le tourmente, il ne peut le supporter. Si je le contriste, je suis en danger. Si je lui porte un coup décisif, je n'ai plus de quoi acquérir les vertus. Tout ensemble, je l'embrasse et me détourne de lui. Quel est donc ce mystère en moi? Que signifie ce mélange? Pourquoi suis-je ainsi ami et ennemi de moi-même? Dis-le-moi, toi, ma compagne, ma nature, car je n'interrogerai personne d'autre pour m'en instruire. Comment ne pas être blessé par tes coups? Comment fuir ce danger qui tient à ma propre constitution, puisque j'ai déjà promis au Christ de te haïr? Comment pourrais-je vaincre ta tyrannie, car j'ai fermement résolu de te faire violence? Et elle pourrait répondre à l'âme, « Je ne te dirai rien que tu ne saches toi-même. Nous en avons toutes deux une égale connaissance. Je me glorifie d'avoir pour mère l'affection que j'ai envers moi-même. Le feu qui me vient de l'extérieur est engendré par les ménagements avec lesquels on me traite et par un relâchement universel. Quant à la flamme qui brûle en moi et au mouvement des pensées, ils ont pour origine un relâchement antérieur et les actes de la vie passée. Ayant ainsi conçu, j'enfante les péchés, et ceci à leur tour enfante la mort et le désespoir. Si tu prends clairement conscience de la profonde faiblesse qui nous affecte, toi et moi, tu m'as lié les mains. Si tu réprimes ton appétit, tu m'as lié les pieds, et je ne peux plus avancer. Si tu prends sur toi le joug de l'obéissance, tu as rejeté le mien. Si tu obtiens l'humilité, tu m'as coupé la tête. Voici le 15e prix de l'athlète victorieux, celui qui l'a reçu, tout en vivant encore dans la chair, est déjà mort et ressuscité, et il connaît désormais les prémices de l'incorruptibilité future.
C'était les lectures des Pères du désert, une émission proposée par Hélène. À son prochain rendez-vous, elle vous entretiendra avec Saint Jean Climac sur l'orgueil, la douceur et l'innocence.